France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour, vous écoutez France Culture et à 8h30, comme chaque dimanche, c'est Solae, le rendez-vous protestant, votre magazine proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Jean-Luc Gadreau. En ce dernier dimanche de juin, c'est au voyage que je vous invite, un peu en avance. Nous partons au soleil, non pas pour se prélasser sur une plage, quoique peut-être aussi, nous verrons, mais en tout cas surtout pour partir sur les traces de l'apôtre Paul en Grèce avec des étudiantes et étudiants de l'Institut protestant de théologie. Alors elles sont au nombre de 3 avec moi en studio de retour de ce magnifique voyage dont nous allons parler ensemble. Il y a Fiona Baudouin. Bonjour Fiona.
Bonjour Jean-Luc.
Éternelle étudiante, m'a-t-on dit, après 5 années d'études de lettres et sciences politiques, Fiona se dirige vers la théologie à l'IPT. Elle est actuellement en M1. Elle est aussi créatrice du compte Sola Fiona sur Instagram, TikTok, où elle vulgarise et parle du protestantisme réformé, puis de son expérience. D'ailleurs, elle parle de ce voyage en ce moment. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Hélène Réglé, bonjour Hélène. Hélène, métallurgiste, d'abord passionnée par la plasticité des métaux et psychologue clinicienne passionnée par celle des humains. Ça va, dit comme ça?
Oui, c'est à peu près ça.
Un parcours qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes tourné vers la théologie et vous êtes en train de finaliser, je crois, la licence.
Tout à fait.
À l'IPT, donc à Paris. Et puis enfin, Cécile Richter. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Cécile est communicante en agence de publicité, entrepreneuse, puis directrice générale. Et puis, elle quitte la communication pour la théologie, elle aussi, en 2020. Des parcours finalement toutes les trois très différents et finalement assez représentatifs à la fois de celles et ceux qui vont apprendre la théologie à l'IPT, mais aussi de ce groupe que vous allez former et qui est parti au début de ce mois de juin en Grèce, entre guillemets, sur les traces de l'apôtre Paul. On verra tout à l'heure que finalement vous étiez parfois un peu à côté, mais voilà, c'était l'idée. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Vous pouvez nous parler de ce groupe, de cette diversité présente dans le groupe ?
Oui, alors c'est vrai que la diversité du groupe, c'est d'abord la diversité de l'IPT, des étudiants qui sont à l'Institut protestant de théologie, qui viennent de milieux culturels, sociaux, de tranches d'âge très diverses. Donc aujourd'hui, on est un peu représentative en effet de cette diversité. Et l'idée, c'était voilà, de faire ce voyage tous ensemble avec nos différences aussi théologiques, puisqu'on n'appartient pas tous aux mêmes églises. Et,
la diversité est là aussi.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est un melting pot qui marche plutôt bien. Et voilà, qui nous a permis de monter le projet du voyage d'abord, puisqu'il a fallu trouver des financements et l'organiser.
On va reparler de ça. Ouais.
Et puis ensuite, d'y aller tous ensemble avec nos différences, mais beaucoup de respect. Et c'est assez représentatif de ce qui se passe à la fac.
Générationnellement aussi, beaucoup de diversité, Fiona, j'ai l'impression, dans ce groupe.
Oui, il y a des personnes qui viennent à la fac qui font ça juste après le bac. Il y en avait plusieurs qui étaient dans ce cas-là
dans
avec
voyage.
Nous en Grèce. Et comme moi, il y a des gens qui continuent leurs études pour le plus grand bonheur de leurs parents. et après, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle, mais aussi des personnes qui sont à la retraite. Et qui font ça pour s'investir un peu plus en paroisse et qui viennent étudier la théologie avec nous, plutôt là en auditeur et auditrice libre.
Hélène, nous, on l'a compris dans la présentation, vous, c'est pas ce dernier cas, mais c'est une forme de reconversion professionnelle après d'autres expériences avant.
Oui, au moins une nouvelle étude qui me mène vers une nouvelle recherche. Je ne sais pas si c'est une reconversion professionnelle, en tout cas. Et je fais partie de la tranche d'âge la plus élevée, puisque moi j'ai plus de 50 ans. Et c'est vrai que même pendant ce voyage, il y avait des gens de 20 ans, des gens de 50 ans, tous en auberge de jeunesse, en train de partager leur chambre et de se retrouver pour le tarot le soir. Et c'est une polyphonie, enfin quelque chose qui est vraiment extrêmement riche, qui rajeunit d'abord, et puis... qui a été très représentatif de ce qu'est l'IPT aussi.
Ouais. C'était un projet rêvé, semble-t-il. Vous avez mis du temps à y arriver. Comment et pourquoi ce voyage? Qu'est-ce qui a motivé tout ça?
Alors, bon, déjà, c'est vrai qu'on parle beaucoup quand même de la Grèce. On a voilà, des cours spécifiquement où on aborde les traditions voilà, qui étaient là avant, avant le christianisme. Et donc, on avait tous envie de voir en vrai ce dont nous parlaient les professeurs pendant tous ces semestres. Et puis pour certains, il y avait aussi cette idée que les voyages n'étaient pas forcément accessibles. Et pouvoir faire un voyage tous ensemble, voilà, c'était vraiment quelque chose qui comptait pour nous. Donc voilà, c'est vrai que ces éléments ont fait que la Grèce, on en rêvait.
Vous aviez avec vous, en plus, un micro France Culture Solae. D'ailleurs, on le voit bien présent sur les petites vidéos de Fiona sur son compte TikTok et Instagram. Vous avez enregistré donc pendant le voyage des réactions, des moments particuliers. On va entendre là deux participants réagir. D'abord, un étudiant. Alors, dans cette diversité, justement, lui est quelqu'un qui suit la formation à l'IPT à distance, parce que c'est une possibilité également, et qu'il a été donc avec le groupe. Il s'appelle Anthony, c'est ça ?
Anthony.
Et puis, Elisama, qui exprime son ressenti après la première journée de visite à Athènes. On les écoute.
Je pense que c'est important de vivre les moments qu'on a vécu en ce moment, surtout quand on est étudiant à distance, parce qu'on est plusieurs étudiants à ne pas être en présentiel, à ne pas pouvoir faire groupe avec les autres. Faire ce genre d'études, c'est pas juste être dans son coin face à sa Bible et étudier intellectuellement des textes, c'est faire partie d'un groupe en marche dans un projet qui peut paraître un peu fou. Et on a besoin de se confronter aussi au parcours des autres camarades qui ont cette folie, eux, également. Pour la relativiser, pour la consolider, mais aussi la remettre en question, la chambouler et être certain un petit peu de ce qu'on va faire. Donc ce genre de petits moments, c'est aussi, ça a aussi cette valeur, j'ai envie de dire presque initiatique, pour consolider ce que l'on est et savoir exactement ce que l'on veut faire.
Pour moi, c'était une belle surprise venir à Athènes. Enfin, c'était pas dans mes projets, donc je suis hyper contente d'aller à l'Acropole, entendre toute cette histoire, quoi, et être dans l'histoire d'une certaine façon. Pour moi, c'était extrêmement agréable. On a un groupe hyper sympa. Tout le monde se parle, il a une sacrée ambiance et je pense que ça change beaucoup de choses. Voyager en groupe avec des personnes, enfin, on se parle tous. Il n'y a pas de petits groupes dans son coin. Je pense que ça nous permet aussi de nous rencontrer dans une autre ambiance, de nous découvrir, de faire des connexions et de fortifier nos amitiés, quoi. Donc, je trouve ça hyper chouette.
Alors, le petit son, là, c'est enregistré là-bas aussi ?
Oui, tout à fait. C'était en redescendant de la visite du Parthénon, la première journée de visite là-bas.
Un musicien dans la rue.
Un petit musicien dans la rue. Hélène me dit, viens vite, il faut aller l'enregistrer. Moi, j'avais très chaud. Je lui dis, t'es sûr? Bon, ok, d'accord.
Bah, il aura servi en tout cas.
Tout à fait.
Et je lui avais donné une petite pièce.
Quand même.
Bien sûr. Ah,
bon, il a été payé.
Tout va bien alors. Les droits sont là aussi. Envie de réagir à ce qui a été dit?
Oui. Fiona. Après, Hélène, tu pourras peut-être poser ton diagnostic. Est-ce qu'on est tous un peu fous et folles de faire de la théologie?
C'est sûr, ça.
Mais, comme a dit Anthony. Mais oui, le voyage en Grèce, c'était vraiment un voyage aussi où on se rencontre, on passe beaucoup de temps ensemble. Et à la fac, parfois, on fait que se croiser. Et puis ouais. Là, on était aussi différentes générations, mais différents niveaux.
Oui.
Moi, je suis en master. Il y en a qui sont en licence. Il y en a qui sont à distance. Donc c'est vraiment un moment hyper privilégié et un cadre exceptionnel pour partir ensemble, passer plus de temps ensemble aussi. On a tous des projets et des vies un peu différentes, on ne fait pas tout ça pour devenir pasteur par exemple.
Oui, alors ça c'est bien de le dire aussi, on imagine faire de la théo, derrière on devient pasteur, pas forcément.
Non, pas forcément, mais quand même un certain nombre d'entre nous, oui.
Oui.
Et par exemple moi c'est mon cas et ça fait du bien en fait de se retrouver avec des potentiels futurs collègues. Mmh. Et là on tisse des liens hyper importants pour la suite de notre
c'est
parcours.
Bon. Mmh.
Et il y a aussi plein d'idées qui peuvent émerger. Comment est-ce qu'on va avoir des moments comme ça plus tard quand on sera pasteur? On va pas pouvoir partir en Grèce avec l'IPT à un moment donné. Il va falloir laisser la place aux prochains étudiants. Mais
peut-être
on
y aller
parle
avec des
de faire des séminaires ou d'y aller avec des paroissiens, de faire des choses ensemble.
Ouais, ouais.
parce que on crée des liens assez forts en fait dans ces moments-là.
Oui, tout à fait. Le diagnostic folie de faire des études de théologie, Hélène.
No comment. No comment.
Autre enregistrement que vous avez ramené, on est à Corinthe cette fois-ci et c'est l'une de vos professeurs, Valérie Nicolet, qui est enseignante de grec et de Nouveau Testament, qui vous parle. Alors on entre dans l'échange qui a lieu.
Ça a été un peu un fil conducteur de notre voyage, de réfléchir à la manière dont les traditions s'imbriquent, se recomposent, se retravaillent, se construisent, et pour en arriver à où on en est aujourd'hui. Donc, quand on réfléchit un tout petit peu à la ville de Corinthe par rapport à la mission de Paul, vous connaissez évidemment Corinthe parce que c'est une des communautés avec laquelle Paul a été en communication, on sait, de manière continue. Ça a probablement été le cas pour plusieurs des communautés. Il y a probablement eu des échanges de lettres assez réguliers ou des nouvelles qui étaient échangées aussi par des messagers. Donc, ça vous donne aussi une idée d'à quel point les gens voyageaient, en fait, dans l'Antiquité. Donc, Corinthe, on a deux lettres qui nous sont restées. Ça doit vous rappeler des souvenirs de l'introduction au Nouveau Testament, deux lettres qui sont dans le canon. Probablement, surtout la deuxième lettre, ça doit être une lettre qu'on appelle une lettre composite avec des morceaux qui ont été mis ensemble. Mon idée personnelle, c'est que ça a été fait assez tôt, où on a mis en fait différents morceaux de lettres ensemble. On mentionne aussi une lettre que Paul aurait écrite, qu'on n'a pas retrouvée, auquel les Corinthiens font référence. Donc probablement en tout, on pense qu'il y aurait eu environ 4 lettres qu'on peut reconstruire assez facilement, envoyées à cette communauté. Cette communauté, Paul la visite, il passe un assez long séjour dans ses voyages où il va écrire d'autres lettres. Donc il y a ce côté où on a évidemment ce sentiment, si vous voulez, par rapport à l'Antiquité, où il y a une petite fascination, où on se dit « Ah, on marche sur les traces de l'apôtre, on peut se rapprocher tout près de là où il a été ». L'idée, c'est aussi un peu, à travers justement ces faisceaux qu'on a essayé de vous montrer, ces réseaux de tradition, d'aussi de réfléchir à notre propre position par rapport à ça, et de faire peut-être aussi un peu un pas de côté, par rapport à la fascination du pèlerinage. En fait, il y a peu de traces de pèlerinage autour de la figure de Paul dans l'Antiquité. C'est quelque chose qui s'est développé bien plus tard. Là, vous avez vu, il y a sûrement des bus qui sont arrivés, qui sont des bus qui font un voyage sur les traces de Paul. On a un peu volontairement pas voulu faire un voyage sur les traces de Paul pour vous montrer que ce monde que Paul arpente, il existe bien avant lui et il continue d'exister bien après lui. Et que quand on entre dans ce monde, le moment où on prend notre place dans cette histoire, il faut avoir ce réflexe de se dire tout ce qui vient avant et tout ce qui vient après. Et je dirais, dans la mesure du possible, de ne pas s'accrocher à un point, de ne pas idéaliser ce moment T où Paul était là. Après, ça n'empêche pas d'avoir ce petit moment où on se dit c'est incroyable de se retrouver dans cet endroit-là et de réfléchir aussi à comment cette communauté existait et comment elle s'intègre dans ce paysage. Quelques-uns d'entre vous ont évoqué l'idée de juste lire un petit bout du début de Corinthiens ici. Si vous avez envie, on peut faire ça maintenant, juste prendre un tout petit moment pour lire les premiers versets de l'Épître, en gardant justement à l'esprit ce contexte beaucoup plus large dans lequel s'inscrit le personnage Paul à ce moment-là. Il est clairement pas tout seul. Je vous ai dit ça très très souvent en cours. On se concentre tellement sur la figure de Paul, mais en fait, ce qui est important, c'est de penser les communautés, les gens autour et comment ils s'inscrivent eux aussi.
Alors, on était à l'intérieur du groupe, vous étiez à Corinthe, et puis Valérie Nicolet, votre prof de grec et de Nouveau Testament, vous parlez. Et on se rend compte, en l'écoutant, que le fameux voyage sur les traces de Paul, finalement, non, c'est pas ça, vous étiez un peu à côté, c'est ça, Fiona?
Oui, on était un peu à côté de ses chaussures, si je peux me permettre. Mais c'était volontaire et c'était assumé, et je trouve qu'elle résume très bien, en fait, j'aurais pas vraiment mieux résumé nos études de théologie que ce passage. C'est très représentatif de ce qu'on apprend à l'IPT, c'est-à-dire à remettre les textes qu'on lit dans leur contexte. Et là, en allant en Grèce, on n'a en effet pas fait un voyage sur les traces de Paul, mais on est allé rencontrer un monde avec d'autres dieux, avec d'autres cultures, une autre langue. Et
c'est
Paul,
la construction de tradition aussi qui est en jeu.
Oui, complètement. Et puis, Paul, il n'est pas tout seul, et il n'y a pas que lui, et il n'y a pas que le christianisme non plus. Mmh.
Et de toute façon, Paul et le christianisme se construisent dans cet univers-là.
Oui, complètement. Et ils reprennent en fait beaucoup de choses qui existaient déjà dans ce monde-là.
Oui, il y avait une forme d'inculturation aussi qui se produisait, oui. Surtout avec Paul, je pense. Oui. Il était particulièrement doué pour ça.
Oui, je pense qu'il s'est autoproclamé apôtre des nations pour cette raison précise, qu'il arrivait à exporter son message et à l'adapter aussi aux communautés à qui il parlait.
Cécile, Hélène, vous voulez réagir à ça également ?
Moi, ce qui m'a marqué, en tout cas à Corinthe, c'est cette allée, sorte d'agora avec les magasins qui étaient de part et d'autre. Et on pouvait s'imaginer, effectivement, en marchant, parce qu'il y a un magasin qui est quasiment resté entier, avec ses trois murs et son toit, qui est en pierre, mais tellement usé, tellement érodé qu'on dirait du bois. Et il y avait quelque chose de presque vivant, on pouvait imaginer les gens. Dans cette allée, avec cette succession de petites boutiques.
Cécile, est-ce qu'il y a un moment particulier de ce voyage, en dehors de Corinthe ou à Corinthe, un moment qui vous a marqué plus que les autres ?
Delphes. Vraiment, on a l'impression qu'il s'est vraiment passé quelque chose là-bas. Et en fait, on est dans les pas de Paul, mais surtout de tous ceux qui ont marché avant Paul. Et c'est vrai que cette découverte de Delphes, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y avait très peu de monde. On a eu le site pour nous, quasiment. L'endroit est majestueux. Enfin voilà, on a vraiment eu beaucoup de chance et on comprend tout à fait que ce soit installé là-bas, ce temple, la Pythie, voilà, cette histoire en fait qui est aussi notre histoire.
On retourne en immersion dans votre voyage, si vous le voulez bien, avec un très beau moment. Vous êtes dans la visite des météores, une formation géologique au nord de la Grèce, en Thessalie, dans la vallée du Pénée. Ils abritent des monastères chrétiens orthodoxes, perchés au sommet de falaises et pitons rocheux sculptés par l'érosion. Et là, votre professeur de grec et d'histoire ancienne, mais aussi doyenne de l'IPT, Anna Vandenkerkhoff, vous partage quelques éléments de compréhension. Et nous l'écoutons.
Les premières marches pour accéder au monastère ont été faites dans les années 1920. Donc c'est relatif, ça a à peu près un siècle. Voilà. Donc jusque-là, c'est par l'intermédiaire des poulies que l'on accédait au monastère. Ce qui leur permettait, ça leur assurait finalement un isolement assez important, notamment dans les petites grottes où là finalement personne n'allait venir les visiter. Très rapidement, là il fait chaud, il fait beau, c'est merveilleux. En hiver, c'est complètement enneigé et il caille. Et il n'y a pas d'électricité. Donc c'est vraiment un mode de vie extrêmement dur, avec des différences de température, à mon avis, entre la nuit et le jour, l'été, et entre les différentes saisons. Donc il faut bien imaginer que c'est une saison, enfin c'est une région qui connaît des grandes chutes de neige. Je l'ai fait en février, il y avait des congères de 3 mètres de haut de neige. C'est impressionnant en fait, et il caille à mourir.
Donc, on n'est pas très loin du Mont Olympe d'ailleurs.
Voilà, et oui, je ne sais plus où il est exactement, mais on n'est pas très loin du Mont Olympe.
Un bel endroit que ce lieu haut perché là, Fiona.
Oui, c'était magnifique.
Vous avez fait une jolie vidéo là-dessus.
Bah oui, mais ça parle tout seul. Ouais, les images parlent d'elles-mêmes.
C'est superbe.
D'ailleurs, il n'y a pas de voix off quasiment sur le vlog monastère, parce que vraiment, c'est tellement beau oui. Qu'il suffit juste de regarder. Les orthodoxes sont très forts pour l'architecture, les peintures. Il y avait des salles entières, on ne pouvait pas filmer dedans, mais des salles entières avec des scènes bibliques, tout se mélange, on ne sait plus regarder tellement il y en a jusqu'au plafond. Et oui, c'était assez impressionnant.
Alors nous sommes aujourd'hui le cinquième dimanche du mois et les habitués de Solae le savent dans ce cas-là. Nous avons pris l'habitude dans Solae, le rendez-vous protestant, d'entendre Édouard Van de Venter pour une chronique écolo. Et votre voyage l'a quelque peu inspiré.
Bonjour Jean-Luc et bonjour à toutes et à tous, en particulier à vos trois invités. Alors pour m'empêcher de penser à l'empreinte carbone d'un tel voyage, je me suis plongé tout de suite dans le parcours de Paul justement. Et ce qui m'étonne pour commencer, c'est que nous voyons le résultat final de ces voyages avec une certaine cohérence a posteriori. Mais si nous nous plaçons du point de vue de l'apôtre au départ de ces voyages, savait-il vraiment où il allait et combien de temps son voyage allait durer? Contrairement à nous autres, occidentaux du troisième millénaire, Paul et ses compagnons n'avaient pas de guide du routard ou de site de réservation pour organiser, prévoir et anticiper leur voyage. Et plus largement, notre société est bien celle de l'ultra-prévision, de l'ultra-préparation et anticipation. Nous voulons savoir le temps qu'il fera demain, prévoir nos prochaines vacances, organiser notre carrière professionnelle et savoir quand et comment nous voulons avoir des enfants, etc. Alors pourquoi cette frénésie de la prévision? Pour se rassurer peut-être, pour essayer de garder prise sur le réel. Et dans notre réel aujourd'hui, des années 2020, où la crise écologique est plus forte que jamais, eh bien je comprends un peu mieux toutes les tentatives pour prévoir, comptabiliser, évaluer les évolutions du climat, et du climat seulement, alors qu'il n'est qu'une composante de la crise. En effet, le réchauffement climatique a ceci de rassurant qu'il se résume à un seul chiffre, la température moyenne à la surface de la Terre. Un chiffre que l'on peut suivre et avec lequel on peut construire toutes sortes de trajectoires de réduction comme autant d'espoir de notre faculté humaine à tout prévoir et donc tout contrôler. Pourtant, la crise est beaucoup plus complexe qu'un simple chiffre ou que le simple effet du réchauffement climatique. Si le climat se portait bien, il resterait la crise de la biodiversité. Et même si cette dernière ne connaissait pas un effondrement, il resterait encore la raréfaction des matières premières et toutes les autres limites planétaires. Alors malgré nos petites prévisions, eh bien nous sommes bien face à quelque chose dans notre réel aujourd'hui qui nous dépasse et qui échappe totalement à notre contrôle. Pourtant, si je reviens à Paul, la chose la plus marquante peut-être dans tout son parcours et dans ses voyages, c'est justement ce lâcher prise, cet abandon confiant dans un esprit qui le dirigeait. J'ai même envie de dire cette non-puissance, pour reprendre le concept de l'intellectuel Jacques Ellul. Une non-puissance qui le fera voyager au gré des vents, des rencontres, et notamment d'un Macédonien qui l'appellera dans son sommeil. Une non-puissance et une précarité qui en ont fait pourtant l'apôtre le plus prolifique, presque, et le plus visionnaire du Nouveau Testament, et dont nous sommes au bénéfice, nous, occidentaux du troisième millénaire. Alors je souhaite à nos chères voyageuses, et à nous tous, d'être aussi inspirés que l'apôtre Paul dans ses voyages, qui a su maintenir le cap de sa vocation dans un monde qui courait, et qui court aujourd'hui toujours à sa perte.
Merci Édouard. Alors justement, Édouard ne voulait pas penser à l'empreinte carbone, mais vous, toutes les trois, et avec le reste du groupe, vous y avez pensé.
Oui, tout à fait. En fait, au début, on s'est même dit, est-ce qu'on ne pourrait pas y aller en train? Alors, ah ouais, voilà, on a cherché, on a regardé.
C'était compliqué.
Voilà, j'ai même contacté une agence qui organise des voyages en train, mais bon, ils n'ont jamais répondu à ma demande. Et c'est vrai que c'était très cher et très long. Et bon, il y a une personne qui n'est pas venue d'ailleurs, parce que voilà, pour des questions voilà, éthique. Vraiment éthiques, elle ouais. ne veut plus prendre l'avion, ce qui est tout à fait entendable. Mais nous, c'est vrai qu'il a fallu trouver un consensus. L'idée, c'était d'emmener le groupe avec, voilà, encore une fois, j'ai déjà dit, des gens qui n'y seraient peut-être jamais allés. Mmh. Et donc, le voyage, la découverte, la prise en compte aussi de ce patrimoine et puis de la beauté des lieux, ça voilà, permettait de compenser un petit peu ce vol. Et puis, on s'est dit, on peut aller plus loin et compenser, même si, évidemment, il ne faut pas se servir de la compensation carbone pour faire oui. n'importe quoi. Mais ah. on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est quand même ça qui est important, agir. Et donc, bah voilà, on va financer une plantation d'arbres, voilà, d'arbres dans, pas très loin de Lyon. Voilà. Donc,
avec un site qu'on peut évoquer, l'agroforesterie, www.terreamoureuse.net, c'est ça?
Tout à fait. C'est donc un couple qui s'est installé, qui fait de la culture, mais aussi de l'accueil paysan, et puis qui cherche, à, comme beaucoup dans ce milieu-là, à faire des choses belles pour l'avenir.
Alors, vous aviez aussi des moments spirituels dans ce voyage, des temps d'études bibliques, si j'ai bien compris. Vous viviez des moments particuliers ensemble
autour... On a eu des grandes épreuves de foi, notamment dans le bus, où là, il a fallu faire confiance.
Ah oui,
ah oui, à ouais. tout le monde, au chauffeur, Dieu, tout le monde.
Au matériel.
Au rétro qui a failli tomber. Et c'est aussi dans mes vlogs, on voit le scotch qui tient le truc. On ne sait pas très bien comment on est rentré, mais on est rentré.
Et puis, il y a eu des rencontres. Et j'ai un son à partager avec nos auditeurs. C'est le même Anthony
mais
qu'on
oui,
a entendu
Anthony,
au début. Anthony qui raconte une rencontre dans une auberge de jeunesse où vous avez logé.
Non, petit moment émouvant quand même hier pendant qu'on prenait un verre, c'est les deux jeunes étudiants qui sont venus nous voir, qui ont expliqué un peu leur parcours et qui m'ont demandé mais c'est quoi votre groupe? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes tous différents et vous avez l'air heureux. Qu'est-ce que vous faites? Et j'ai expliqué un petit peu nos études et notre parcours et il était à la fois étonné que des étudiants en théologie puissent ressembler, a-t-il dit, à ça, et qu'on puisse avoir la pêche comme ça lors d'un voyage.
Envie de réagir à cette rencontre ou à d'autres peut-être que vous avez vécues
On était en auberge de jeunesse, donc c'est effectivement un lieu où on peut rencontrer plein de gens, notamment en Grèce, énormément d'immeubles ont des rooftop, comme on dit. Donc on se retrouve le soir là-haut, avec dans une très bonne ambiance, avec une vue sur le Parthénon. C'est assez magnifique. Donc c'est sûr qu'on rencontre beaucoup d'autres personnes de nationalités différentes.
Et c'était l'occasion de discuter, de partager aussi.
De discuter, de partager, effectivement, de boire des verres, de jouer au tarot.
Le tarot devait compter a priori pas mal. On arrive à la fin de cet échange autour de votre voyage en Grèce. Une dernière question plus personnelle à vous trois, si vous me le permettez. Vous êtes à des niveaux différents de vos études en théologie protestante, avec aussi, on l'a dit au début, des arrière-plans et des parcours eux aussi différents. Comment est-ce que vous vous situez, chacune d'entre vous aujourd'hui? Comment vous envisagez la suite de vos études, mais aussi peut-être de votre engagement, d'un ministère possible? Alors Fiona, j'ai cru comprendre que c'est le ministère pastoral vers lequel vous souhaitez aller.
Oui, c'est vers là que je me dirige en tout cas. Et l'année prochaine, je serai en stage vraiment avec un pasteur dans ce sens-là.
Vous savez où déjà?
Je serai à Poissy.
Ah, en région
avec,
parisienne.
Avec Georges Letellier.
Cécile?
Alors moi, au début, c'était inconcevable. Maintenant, j'y pense un peu plus au ministère pastoral, mais a priori, peut-être sous une forme un peu différente.
D'accord.
Mais je ne sais pas encore laquelle.
Et vous êtes à quel niveau?
Moi, j'ai fini ma licence là, cette année. Donc,
d'accord. Vous allez continuer?
Oui.
Master?
Mais master première année. D'abord, on n'est pas obligé de choisir tout de suite.
Hélène?
Alors, c'est encore plus incertain pour moi. Je me laisse voir. Je serai en suffragance... cet été.
Cécile donc, aussi, je crois.
Oui,
voilà. Ouais. Avec Cécile, d'ailleurs, on sera ensemble dans la Drôme. Et
ça va permettre aussi de vivre une expérience.
Absolument.
Et puis, sur le terrain.
De discernement. Mm-hmm.
Eh bien, je vous souhaite le meilleur, un bel été déjà, très concrètement, et puis que les choses soient guidées pour vous trois dans cet avenir proche. Et puis, on salue tous les autres étudiants de ce groupe, mais aussi de l'IPT.
Est-ce qu'on peut dire un petit merci à ceux qui nous ont aidés
Bien
à partir?
Bien sûr, vas-y, vas-y.
Donc,
allez-y.
D'accord. Donc bah, déjà, il y a plusieurs paroisses qui nous ont permis de mener nos actions pour récolter de l'argent. Il y a également l'AmiPat, c'est l'association des amis de l'IPT, la fondation Flamme, voilà. Et puis tous les étudiants en effet qui ont participé à ces ventes.
Pour nous séparer, on va dans les lettres de Paul. Une dernière fois, dont nous avons entendu parler ce matin, c'est la première aux Corinthiens, chapitre 13, qui devient une chanson dans la bouche de Anne Coste, Jacinthe Madelin et de Vianney, les Frangines, avec « Donnez-moi ».
J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, eh. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas,
c'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération Protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Jean-Louis Deloncle à la prise de son. Émission à réécouter sur le site protestantpluriel.org à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin sur France 2, de 10h à 11h, entre les lignes, Les Arbres de la Bible, un magazine écuménique et culturel proposé par Présence Protestante et le Jour du Seigneur. Sur France Culture, vos programmes continuent dans quelques instants avec Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations de 9h. Et moi, je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun.
l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, hey.